Alors, effectivement, je vais légèrement déborder du cadre de cette journée d'études, mais pas tant que ça. Donc, en parlant des Dalail al-Khairat, ou le guide des bonnes œuvres, qui est un recueil de litanies en l'honneur du prophète Mohammed, composé vers la moitié du XVe siècle par le shérif marocain Sidi Ben Souleyman al-Jazouli, qui est mort en 1465. Alors, peu de temps après l'apparition du livre de prière, il devient l'un des ouvrages religieux les plus copiés au Maroc, après le Coran, et jusqu'à la fin du XIXe siècle. Par la suite, son succès dépasse les frontières du royaume chérifien et s'étend à l'ensemble du Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Ensuite, l'œuvre devient également un classique de la littérature dévotionnelle dans les contrées orientales, et en particulier en Turquie. Alors oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Dalail possèdent notamment la particularité de figurer parmi les rares ouvrages religieux illustrés en Occident musulman. Le livre de prière a fait l'objet d'études sporadiques qui se concentrent généralement sur le programme iconographique, sur les images des manuscrits, sinon sur le contexte de rédaction du texte. Et donc, dans un article de Jan Just Whitcam, qui traite du programme iconographique des Dalail al-Khairat, il compare brièvement le bréviaire au Coran, et ce en raison de l'ampleur de sa diffusion manuscrite. Il parle ensuite, je cite, de « rival du Coran », justifiant cette expression par la sacralité du livre qu'il juge comparable à celle du Coran. Alors on retrouve ces analogies dans plusieurs autres ouvrages, dans lesquels les spécificités de copie et du décor du livre de prière sont brièvement mises en parallèle avec celles des manuscrits coraniques. Donc, dans cet exposé, je souhaiterais justement exploiter ces rapprochements et examiner certains aspects des rapports entretenus entre les Dalail et le texte et les manuscrits du Coran. Donc, je voudrais juste vous avertir que ce sont des recherches préliminaires et donc ça demande encore à être approfondi. Alors, avant d'aborder le texte et les manuscrits des Dalail al-Khairat, je voudrais d'abord introduire le contexte d'apparition du livre de prière et présenter très rapidement son auteur al-Jazouli et les enseignements développés par la Tariqa al-Jazouliya. Alors, la période de l'apparition des Dalail al-Khairat est marquée par une profonde agitation politique et religieuse au Maroc. Et dès le début du XVe siècle, les Mérinides sont confrontés à plusieurs difficultés. L'intensification des attaques portugaises sur le littoral marocain, le recul de l'islam en Al-Andalus et également les luttes intestines de succession au pouvoir au sein même du Marzen. Finalement, un climat d'anarchie s'installe dans le royaume, qui s'explique par des régions qui proclament leur indépendance, des rébellions contre l'autorité. Donc ce climat d'anarchie précipite finalement le déclin de la dynastie, ce qui va ensuite permettre l'avènement des vizirs Ouattassides. Donc les Ouattassides étaient des hauts fonctionnaires qui étaient au service des Mérinides, et ils vont prendre le pouvoir en 1472 en s'établissant à Fès. Finalement, leur politique se révèle infructueuse et ne parvient pas à contrer les offensives portugaises, ni à rétablir l'ordre, ou encore à regagner la confiance du peuple. Et cette faiblesse du pouvoir central va profiter à une forme d'autorité qui était apparue à mi-voie pendant la période précédente et qui est représentée par les chefs religieux, les chefs de confrérie et les zaouias qui vont devenir des centres de résistance politique. Alors, ces chefs religieux vont constituer assez rapidement le seul rempart face à la poussée chrétienne en appelant à la guerre sainte. Et c'est ainsi que le mouvement éponyme jazoulite, donc fondé par al-Jazouli, va désigner un clan chérifien de la vallée du Dra, les Saadiens, pour organiser la résistance contre les envahisseurs chrétiens. Le succès des Saadiens va leur permettre de chasser aisément les Ouattassides de Fès en 1548 et de constituer une nouvelle dynastie régnante descendante du prophète. Donc ils sont appuyés par les marabouts et par les adeptes jazoulites qui vont se rallier à leur cause, et ils parviendront par la suite à extraire le royaume de la profonde crise qui avait miné les dynasties antérieures, à libérer les ports, la plupart des ports occupés par les Portugais, réunifier le Maroc, et ensuite, par la suite, ils réussiront à stopper la menace turque. Alors maintenant, pour en venir à Al-Jazouli, l'auteur des Dalail al-Khairat, donc il est né dans le Sousse, dans le sud du Maroc, au sein de l'une des plus importantes tribus berbères de souche Sanhaja, ce qui ne va pas l'empêcher ensuite de clamer une descendance sainte du prophète. Il va ensuite se rendre à Fès afin de se consacrer à l'étude et à la dévotion en s'installant dans une cellule de Madras Safarin, qui est à quelques mètres de la mosquée d'Al-Qaraouin. Il part ensuite au Ribat de Titn Fetr où il suit les enseignements de Mohamed Amrar Sarir, qui est cheikh de l'ordre soufi Al-Sanhajaya, qui est une variante rurale de la Chevilaya. Et à la mort de son maître, Amrar Sarir, donc en 1446, Al-Jazouli accomplit le pèlerinage à la Mecque et Médine et fait étape au Caire. Et donc au Caire, il va être initié par le soufi Qadirite, Abdelaziz Al-Ajami, à la doctrine d'Abul Hassan al-Chevili, qui, à cette période, connaissait un important succès sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. Alors, il est probable qu'Al-Jazouli ait entamé la rédaction des Dalail à son retour au Maroc, donc en 1453. Et selon un manuscrit conservé à la bibliothèque Ben Youssef de Marrakech, il aurait dicté son texte à son disciple Mohamed al-Souray al-Sahli, cette année avant sa mort, donc en 1457-1458. Et cette copie autographe d'Al-Sahli, appelée Al-Nusra Sahliya, aurait servi ensuite de modèle pour la production des Dalail. Alors, il va fonder ensuite une zawiya à Safi et le mouvement jazoulite va essaimer dans l'ensemble du Maroc en rassemblant de plus en plus d'adeptes. Et ils auraient été, peu de temps avant la mort d'Al-Jazouli, près plus de 12 000 disciples. Cette phase va donc marquer les prémices de la tariq al-Jazouliya et de sa diffusion. Finalement, le succès croissant de la voix attise la méfiance et l'hostilité d'agents politiques et de ulémas proches du pouvoir, du marzen, qui auraient vraisemblablement organisé le meurtre par empoisonnement d'Al-Jazouli en 1465. Alors, donc il m'a semblé important de revenir un petit peu très brièvement sur la doctrine développée par Al-Jazouli, qui nous permettrait de comprendre un petit peu les usages de son livre de prière et son importance. Donc, dans un autre ouvrage qu'il a composé, intitulé « Al-Aqida », le shérif exprime les préoccupations qui seront en partie à l'origine de sa démarche. Il se plaint de la perte des valeurs traditionnelles islamiques, de l'ignorance et de la débauche, conséquence d'une part de l'occupation portugaise des villes côtières marocaines et du laxisme des ulémas proches du marzen. Il se présente alors comme le Mahdi et le rénovateur de la voie, Mujaddad al-Tariqa, qui viendra sauver sa communauté et restaurer l'image de l'islam à travers le rétablissement de la sunna du prophète. Il développe alors une doctrine qui met l'accent sur la vénération du prophète, dont l'expression la plus claire réside finalement dans son bréviaire Dalail al-Khairat. C'est à travers la prière qu'il entend redonner un souffle nouveau à la sunna du prophète. Al-Qassar, d'ailleurs, rapporte en ces termes les paroles du saint. Je vous impose de prononcer les noms de la divinité sublime, de dire la prière pour l'envoyé de Dieu et de visiter les saints. En prononçant les noms de la divinité, tu donneras la quiétude au cœur. Par la visite des saints, tu apprendras le chemin qui mène à Dieu. En d'autres termes, la pratique de la prière pour le prophète est le moyen par excellence qui permet la réalisation spirituelle et l'intercession du prophète, ce qui explique notamment l'importance pour tout aspirant à la voie de la lecture quotidienne des Dalail al-Khairat. Et c'est à juste titre que Ruggero Vimercati di San Severino, qui a fait une thèse sur la sainteté à Fès, il remarque donc « C'est grâce à la tasliya que l'aspirant doit espérer de Dieu la purification initiatique, lui permettant de jouir d'une relation directe avec le prophète et de ce fait de l'élection divine et de l'accès à la sainte présence. Cette efficacité de la tasliya, selon Al-Jazouli, résulte du rang privilégié dont le prophète jouit auprès de Dieu. Il s'agit du secret de l'amour entre le créateur et sa créature préférée auquel est associé le lecteur des Dalail al-Khairat. » Alors, j'en viens maintenant au livre de prière. Donc, alors, il s'organise comme suit. Il contient d'abord une prière introductive, ensuite une partie sur les bienfaits de la prière sur le prophète, la liste des 201 beaux noms de Mohammed et la description des tombeaux du prophète et de ses compagnons, les califes Abu Bakr et Omar, dans la mosquée de Médine. Et c'est ce qui a ensuite suscité était à l'origine du développement de l'iconographie des Dalail al-Khairat que je ne vais pas aborder aujourd'hui. Donc, c'est ici l'image de la chambre funéraire de Médine. Alors cet ensemble est ensuite suivi du corps essentiel des prières qui sont divisées en 8 sections, Ahzab, destinées à être lues chaque jour de la semaine du lundi au lundi suivant. Donc deux prières étaient finalement lues le lundi. Et dès la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, plusieurs copies font apparaître une division en quarts, roba, en tiers, thulth et moitié, nisf. Tandis que d'autres présentent simultanément les deux formes de division. Voilà, donc ensuite une prière en rime clôt l'ensemble. Donc en ce qui concerne les sources et les influences du texte d'Al-Jazuni, alors son principal hagiographe, Mohammed Al-Faisi, qui est mort en 1698, donc, selon Mohammed Al-Fes, Jazuli aurait rédigé le livre de prière à Fès en s'inspirant des nombreux ouvrages de la bibliothèque de la mosquée Al-Qarawiyyin. Il décide alors de compiler toutes les formules de prière pour le prophète et ses compagnons. Donc, comme c'est dit ici, « Jama' al-murwi min al-fad wa salam al-nabi wa an ghayrihi min fadala ummatihi » Et la plupart des prières et des invocations des Dalail, elles sont en fait tirées des hadiths ou d'autres livres de dévotion comme le Qut al-Qulub d'Abu Talib al-Makki, qui est une figure importante du soufisme au Xe siècle. Et donc ce texte est assez important et on comprend qu'Al-Jazuli s'en soit largement inspiré puisque il traite dans sa première moitié des fondements obligatoires de l'islam, la remembrance, le dhikr, la prière, l'oraison, le wird, la méthodologie de récitation du Coran et les vertus des prières congrégationnelles. Et d'autre part, certaines sources avancent qu'Al-Jazuli se serait inspiré de textes orientaux dont il aurait pris connaissance pendant son séjour en Orient. Par exemple, le soufi yémanite Murtada Zabidi est d'avis que le shérif aurait probablement plagié un recueil de prières portant le même titre et rédigé au XVe siècle par un soufi de Shiraz. Cela paraît assez plausible à la lecture de certaines du'as ou invocations des Dalail, qui présentent clairement des influences orientales connues surtout dans le milieu qadirite. Par exemple, une invocation qui se trouve dans la prière du mercredi des Dalail Khayrat reprend presque mot pour mot la petite prière à Salat al-Sughra consacrée au prophète et composée par Abd al-Qadir al-Jilani, qui est mort en 1166. Al-Fes y précise également que l'un des premiers compagnons du saint, Abu Abdallah Muhammad Amin al-Attar, était un mourab al-Qadiri et aurait même contribué à la rédaction de certaines invocations du bréviaire. Donc là, je parle un petit peu de la Qadiriyya et de l'influence de la Qadiriyya parce qu'elle a joué un rôle assez important et décisif dans la diffusion du livre de prière, puisque c'est surtout à travers les cercles qadirites que chavidites que le texte a réussi à s'imposer et à rencontrer l'adhésion des fidèles en dehors des frontières du Maroc. Alors, je me suis un peu posé la question du rapport qu'entretient le texte des Dalail al-Khairat avec le texte coranique. Donc il faut savoir que le Coran, bien sûr, contient plusieurs versets qui soulignent le rôle exceptionnel de la figure du prophète, qui a été envoyé, je cite, en miséricorde pour l'univers et qui est décrit comme ayant une nature noble et éminente. Mais le Coran rappelle également la nature strictement humaine du prophète, comme il est dit dans la sourate 6, le 50e verset. « Je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je ne connais l'inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. » Donc ces versets coraniques ont certainement servi de fondement pour le développement de la dévotion pour le prophète. Et d'ailleurs, ils ont été fréquemment employés dans des livres de piété, à l'instar du Kitab Ruddat al-Hasan al-Hassin de l'imam Ibn al-Jazri, mort en 1429. Mais souvent, les versets sont volontairement extraits du thème strict de la sourate d'origine, et leur sens et leur réinterprétation sont réarrangés afin de servir finalement le texte d'accueil, donc les prières. Dans son livre de prières, El-Jazouli a rarement recours au texte coranique. Il fait référence dans l'introduction au verset 33 de Sourate Al-Ahzab, « Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison du prophète et vous purifier pleinement. » Le verset 56 de la même sourate, « Certes, Allah et ses anges prient sur vous, ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. » Donc ce verset est répété et cité à trois reprises, dans l'introduction, dans la prière du lundi et celle du jeudi. Ce passage coranique est fréquemment employé dans les textes de dévotion au prophète, et pour cause, il rappelle l'importance d'invoquer les bénédictions d'Allah sur le prophète. Donc cela explique probablement sa récurrence relative dans le texte. Enfin, un dernier verset est repris cette fois-ci dans la prière du samedi. Il s'agit du verset 96 de Sourate Safat, « Alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous faites ». Et cette sourate, spécifiquement ces derniers versets, auquel appartient ce verset-ci, rappelle l'importance de se rattacher à la figure du prophète en période de troubles et de conflits. Donc, étonnamment, le Coran ne semble pas avoir été la source privilégiée dans la rédaction des Dalail al-Khairat. Finalement, nous n'en retrouvons que 5 occurrences dans le texte. Néanmoins, cette singularité n'a pas empêché sa diffusion en dehors de son cadre initiatique au sein des cercles soufis et son succès à travers toutes les classes de la société, faisant de lui un ouvrage d'une importance majeure dans l'islam sunnite. Alors, je vais en venir maintenant aux manuscrits. Donc, à ma connaissance, les plus anciennes copies datées qui subsistent à nos jours, qui ont été recensées, remontent au début du XVIIe siècle. La plus ancienne datant de 1616, qui est, c'est ça ? Non. Oui, qui est celle-ci, qui se trouve à la New York Public Library. Par la suite, le nombre de copies croît de façon assez importante, ce qui témoigne de l'intensification de la production du livre de prière. Alors, en confrontant ici le plus ancien manuscrit, à gauche, à des exemplaires plus tardifs, nous constatons déjà que des codes de copie de copie et de décor des délais auraient été mis en place assez tôt et en aboutissant graduellement à une standardisation des manuscrits. Alors, qu'en est-il des principaux traits de cette standardisation ? Il concerne notamment les graphies et les décors des manuscrits. Il faut savoir que les manuscrits des Dalail al-Khairat sont le plus souvent copiés avec le plus grand soin, ce qui les nuance des textes religieux non coraniques où cet aspect semble peut-être plus aléatoire. Le texte se caractérise par une grande clarté, rendue possible notamment par des lignes d'écriture espacées, donc on a généralement entre 7 et 15 lignes à la page, et un décor participant à l'organisation visuelle du texte. Au sein de ces décors, les copistes ont recours à des graphies élaborées, puisque les titres des sections sont copiés soit au moyen d'une variante maghrébine du Thuluth oriental, soit dès le début du XVIIe siècle en koufique. Alors, cette graphie qui était utilisée au Maghreb dès le IXe siècle va être progressivement délaissée au sein même du texte principal, au profit du maghrébi, bon, tout en restant assez fréquemment utilisée dans les bandeaux de titres. Elle réapparaît cependant au XVIe siècle, mais utilisée au sein de manuscrits coraniques sous une forme qualifiée de maniérée, comme dans ce Coran, copié en 1568 pour le sultan chérifien Abdallah ibn Muhammad. Et dans les vignettes marginales, mais je pense qu'elles n'apparaissent pas ici. Elle est par la suite fréquemment employée, mais toujours réservée aux exemplaires raffinés du Coran, mais également à quelques copies des Dalail al-Khairat. Et là, dans le cas des Dalail, elle est insérée de la même manière dans les bandeaux de division, au cœur des vignettes marginales signalant les Ahzab, ou au sein des illustrations, parfois sous forme de légendes qui identifient certains éléments de l'iconographie. Alors, quelle que soit la qualité du décor, la qualité du manuscrit, la présence d'un décor enluminé reste une constante. Le livre s'ouvre généralement sur un large panneau enluminé, formé de bandes à pseudo-tresses géométriques dorées, avec des variations, et qui contiennent au centre le titre. Les indications des différentes divisions sont le plus souvent hiérarchisées. Les divisions en quart, tiers et moitié sont signalées par des bandeaux enluminés de taille variable, allant du plus petit pour les divisions en quart au plus large pour les bandeaux qui signalent la moitié du manuscrit, tandis que les Ahzab sont indiqués dans la marge par des vignettes circulaires. J'ai perdu une image. Bon. Excusez-moi. De la même manière, le recours aux marques de séparation est incontournable. Ces signes sont présents au fil des pages des manuscrits et sont mis à l'honneur dans la section des 201 beaux noms du prophète. Les motifs varient du simple point épais coloré à des formes pyramidales obtenues par trois points épais ou par une marque en lacis. Donc, ces décors caractérisent certes davantage les copies les plus raffinées, destinées à des commanditaires appartenant à un rang social élevé. Cependant, les exemplaires de facture moyenne, réalisés vraisemblablement par des copistes non professionnels, reproduisent également ces codes, avec la présence des runwen, des médaillons marginaux et des marques de séparation, et de façon systématique malgré une qualité d'exécution parfois très modeste. Donc là, on a des exemples de copies qui sont de qualité légèrement inférieure à ce que je montrais précédemment. Dès lors, ces manuscrits constituent un témoignage clair du rôle joué par l'enluminure qui dépasse largement sa fonction ornementale et participe à la facilitation de l'assimilation des prières. Là, elle joue réellement le rôle d'aide-mémoire pour des textes dont la lecture devait être répartie sur tous les jours de la semaine. Donc, finalement, les manuscrits des Dalail al-Khairat semblent avoir bénéficié d'une attention particulière des copistes et des enlumineurs qui est très similaire à celle du Coran. Les copies faisant exception sont généralement des manuscrits qui sortent du circuit traditionnel de la production manuscrite qui ferait intervenir donc un copiste et un commanditaire et qui ne seraient pas réalisés par des copistes professionnels. Mais, comme je l'ai souligné plus tôt, même dans ce cas, le copiste improvisé reproduit au mieux les caractéristiques visuelles des Dalail, rendant l'ouvrage immédiatement identifiable visuellement. Maintenant, j'en viens à un autre point des traits de la standardisation des manuscrits. Donc, dès le XVIIe siècle, probablement vers la fin du XVIIe, certaines copies des Dalail al-Khairat renouent avec un format original carré, jusqu'alors jamais appliqué au Dalail. Alors, le format carré avait un certain temps caractérisé des manuscrits coraniques produits en Occident musulman. Donc, des Corans de ce type auraient déjà commencé à circuler dès le XIIe siècle. Alors, le plus ancien connu à ce jour, il me semble, serait le Coran 1397 de la bibliothèque de l'Escorial et qui est daté de 1106-1107. Ensuite, ce format va se répandre au XIIIe siècle. Et ces manuscrits revêtent généralement de très petites dimensions et étaient alors très vraisemblablement destinés à être portés comme des amulettes. Donc là, on voit un exemple d'un Coran de format carré à gauche du XIIIe siècle. Et alors, ce format carré va être abandonné au XVe siècle au profit d'un format exclusivement vertical, mais il réapparaît dès le XVIIe siècle au Maghreb Et donc là, on le voit dans un manuscrit du 19e, un Coran du 19e siècle, mais cette fois-ci, il ne se limite plus aux manuscrits coraniques, puisqu'il s'applique également à quelques rares exemplaires des Dalail al-Khairat, avant de se généraliser les siècles suivants. Donc là, on a deux exemplaires des Dalail du 17e siècle. Et ces copies revêtaient donc des fonctions talismaniques similaires à celles des Corans et étaient également destinées à être transportées par le fidèle pour ses lectures quotidiennes, comme en témoignent les étuis à bandoulières qui les renfermaient, qui apparaissent ici sur ces images. Il est donc assez curieux de constater la référence claire au Coran par la réappropriation de caractéristiques matérielles qui étaient jusqu'alors exclusivement réservées aux manuscrits coraniques et donc identifiables à leur format original, pouvant presque prêter à confusion. Cet usage, donc il faut savoir qu'il va s'étendre ensuite au début du XIXe siècle à d'autres livres de piété, à l'instar ici du Hasan al-Hassin ou aussi du Kitab al-Shifa de Qadiriyad. Donc, pour clore cette présentation, je me réfère de nouveau à l'article de Jan Just Whitcomb, qui, en décrivant la qualité d'exécution des Dalail et le riche décor enluminé qui les caractérise, évoque la possibilité de l'intervention de copistes et enlumineurs coraniques dans la production du livre de prière. Nous pourrions par ailleurs nous demander si la copie des Dalail n'était pas considérée comme un acte de piété porteur de bénédiction comparable à la copie des Corans. Dans son analyse du culte tardif du prophète à partir de l'étude des Dalail, Armand Abel cite un texte d'Al-Razali rappelant l'importance de la mise par écrit des prières pour le prophète. Et je cite « Celui qui aura copié une prière de ce genre ou l'aura composée par écrit bénéficiera des prières des anges aussi longtemps que subsistera cet écrit. » Or, un passage au début des Dalail pourrait laisser entrevoir la possibilité d'une démarche dévotionnelle à travers la copie des manuscrits. Donc, dans le chapitre des bienfaits de la prière pour le prophète, Al-Jazuli fait référence à un texte de tradition qui va dans ce sens. « J'habitais près d'un voisin copiste qui est mort. Alors un jour, en le voyant en rêve, je lui demandais « Qu'est-ce qu'Allah a fait de toi ?» Il me répondit « Il m'a pardonné les fautes. » Chaque fois que j'écrivais le nom de notre maître Mohammed, qu'Allah le bénisse et le salue, dans un livre, je prononçais la salade sur lui. C'est pourquoi mon Seigneur m'a accordé ce qui n'est vu par aucun œil, ni entendu par aucune oreille, ni présenté au cœur ou à l'esprit d'aucun être humain. » Donc, comme je l'ai indiqué au début de la communication, il peut paraître assez surprenant qu'aucune copie formellement datée du XVIe siècle n'ait été jusqu'ici recensée, tandis que les exemplaires produits sous le règne saadien restent paradoxalement rares compte tenu du rôle joué par la Jazuliyya l'avènement de la dynastie saadienne. Néanmoins, ce livre de prières témoignant d'une dévotion pour le prophète parfois considérée extrême et sévèrement critiquée par certains ulama est tout de même parvenu à se diffuser à une telle ampleur qu'il en est devenu le texte religieux le plus copié après le Coran en Occident musulman. Et jusqu'à ce jour, au Maroc, il est recommandé d'avoir au sein de chaque foyer une copie du Coran et une copie des Dalail al-Khairat, préférablement de bonne facture, assurant ainsi la protection de ses membres.